France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse, désormais hebdo, tous les vendredis à 10h. Et ce matin, le bonheur selon la romancière à succès, Aurélie Valogne, l'autrice de Mémé dans les orties, Minute Papillon ou cette année de la fugue. Selon Libération, c'est une as du roman feel good, du roman qui fait du bien. Mais cette romancière installée à Dinard en Bretagne ne peut être réduite à ce genre. Nous verrons quels sont les thèmes récurrents de ses livres, quel rapport entretient-elle avec ses lecteurs et ses lectrices, et quelle est sa conception d'une vie heureuse. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Aurélie Valogne sur l'appli Radio France et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Leur intelligence et leur pétulance nous font du bien chaque semaine. Ce sont les tic et tac du vendredi. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice, philosophe de son état. Quelle punchline philosophique avez-vous choisi cette semaine ?
Eh bien Ali, on va aller dans les essais de Montaigne. On va se demander si on peut expliquer l'amitié avec cette formule que vous employez souvent. Parce que c'était moi, parce que c'était lui, parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama, au menu de votre ciné-thérapie.
Bon d'abord, j'aimerais bien une bonne fois pour toutes savoir si je suis tic ou tac.
Bah, on verra ça
en antenne. Personne n'a jamais su les différencier. Alors au menu, écoutez, évidemment c'est incroyable d'être écrivain. Mais ça se soigne aussi parce que c'est hyper dangereux.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Aurélie Valogne a déjà séduit plus de 3 millions de lecteurs.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Depuis 4 ans, elle dédicace autant que Marc Lévy ou Fred Vargas.
Merci à vous, merci d'être venu.
Franchement, j'adore et je continue d'adorer.
Même si j'ai pleuré comme une madeleine, voilà. Forcément, je sais que quand même, je me sentais bien. Sans pouvoir l'expliquer, ça s'était bien terminé.
C'est ce qu'on appelle des feel-good romans.
Feel-good roman, c'est un roman qui fait se sentir mieux après. Une histoire qui se termine bien, qui te fait du bien. Et ce que je disais, un petit bonbon pour adulte, un conte pour adulte, qui nous soigne.
Bonjour Aurélie Valogne.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous accueillir, vous êtes romancière, on vous doit donc Mémé dans les orties, La lignée, L'envol et La fugue, paru cette année chez Jean-Claude Lattès. Vous êtes l'une des romancières les plus lues en France. Aurélie Valogne, vous rediriez en 2025 ce que vous disiez en octobre 2017 dans le 20h de France 2 au moment de la sortie d'Au petit bonheur la chance à propos des feel good romans, de ces romans qui font du bien. Vous rediriez la même chose ?
Bah oui. Oui, après c'est vrai que j'ai eu un problème avec le mot feel good parce que à un moment donné j'ai eu l'impression d'être enfermée dans une case et où j'avais pas le droit de sortir et où finalement c'était facile d'accoler mon nom à cette étiquette feel good et j'avais envie de dire mais si on lit un peu plus profondément on se rendra compte que ce ne sont pas que des comédies, qu'il y a un peu de profondeur et que j'essaye de faire les choses avec sérieux. Donc la vraie question que je me pose c'est est-ce que l'histoire que j'ai envie de raconter vaut le coup de couper tous ces arbres. Voilà.
Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Autrice chez Marabout de ces livres qui nous font du bien. On a tort de ne réduire Aurélie Valogne qu'à une autrice de romans feel good. Elle apparaît comme l'une des figures de proue de ce genre aux côtés de Gilles Le Gardinier, Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan, Mélissa Dacosta ou encore Valérie Perrin, le JDD titré en 2020 « Une romancière qui vous veut du bien ». C'est un peu difficile de définir ce qu'est un feel-good roman, un roman qui fait du bien.
Mais peut-être que c'est quand même pas si difficile que ça, mais j'ajoute la définition que vous venez de donner, que vient de donner
Aurélie.
Aurélie, j'allais dire Valérie. Virginie.
C'est normal.
Mais alors ça, c'est une impression, mais qui est quand même validée par ce que je vois dans les thèmes et tout ça. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a un groupe de romancières feel good qui maintenant mettent des thèmes un peu plus, j'allais dire triste, c'est pas du tout ça, je veux dire, mais un peu plus concernant dans leurs romans. Par exemple, le dernier opus
D'Aurélie,
D'Aurélie, pardon, aborde la question du féminisme et du besoin, ça s'appelle la fugue, de partir pour pouvoir enfin se réaliser. Donc ça, c'est un thème quand même sérieux. Et il y a des questions de fond qui se posent dans son livre. Et c'est vrai aussi pour Virginie Grimaldi, qui a abordé la question d'Alzheimer précoce. On ne peut pas dire que ça soit particulièrement un sujet feel good. Même si il y a un retournement, que le roman suit certains codes et que ça se termine bien. Mais les sujets sont, en tout cas pour certaines, de moins en moins purement sentimentaux et de plus en plus ouverts sur des thématiques de société.
Aurélie Valogne.
Oui, oui, je suis d'accord. Après, moi, je ne sais pas si le mot sentimental aurait pu coller sur aucun de mes romans. C'est vrai que les premiers étaient des comédies. Mmh. Moi, je crois que j'ai écrit les livres dont j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie quand ça n'allait pas. Je sortais d'un baby blues, je sortais d'un burn-out, je sortais d'une cousine très malade. Et donc, forcément...
Décédée brutalement.
Elle a eu le temps de lire de m'aimer dans les orties, mais oui, quand on... Voilà, bref. Donc effectivement, je crois que parfois, on n'a juste pas envie de savoir ce qu'on fait et juste le faire avec le cœur. Et j'ai écrit le livre qui m'a fait rire.
M'aimer dans les orties.
Oui, m'aimer dans les orties. Et donc effectivement, après, le côté sentimental, moins. Mais par contre, oui, des émotions.
Mais Aurélie Valogne, pendant le confinement, vous recevez des tonnes de messages au moment de la parution de Né sous une bonne étoile. Vous avez aidé les lecteurs à surmonter cette période anxiogène du confinement. Je cite quelques messages que vous avez reçu, parce qu'à la fin de vos livres, vous donniez votre adresse mail pour qu'on s'adresse directement à vous. Merci de nous apporter de la fraîcheur, de la gaieté, de la légèreté en ces temps difficiles, vous écrit un psy. Votre plume nous fait du bien, vous dit une femme hospitalisée. Pourquoi vos romans résonnent à ce point avec la vie de tant de lectrices et de lecteurs ?
Je crois que mon point de départ, c'est toujours les injustices de la vie. Donc c'est ce que moi, je peux voir de choses qui arrivent à mes proches ou parfois que je peux vivre moi-même. Mais c'est sûr que je ne vais pas essayer de raconter la vie. Je ne vais pas la romancer. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller mettre des bons sentiments, du sucre, du gras. C'est juste raconter la vie telle qu'elle est et se faire en sorte que dans une histoire, on puisse montrer un chemin un peu plus lumineux et un peu plus solidaire. Et c'est là où, pour moi, notre devoir d'écrivain, c'est de faire en sorte que quand on sort d'une histoire qu'on a pris le temps de lire, et aujourd'hui la lecture c'est un combat vu la chasse aux écrans, il faut quand même essayer de faire en sorte que le lecteur ne ressente pas déprimé, et au contraire un peu plus optimiste, ou avec plus d'espérance sur le monde qui nous entoure.
Christina ?
Oui, et puis que ce soit des sujets qui concernent les lecteurs, qui sont surtout des lectrices d'ailleurs, directement, qui résonnent directement dans leur vie, et dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire que ce ne sont pas des écrits vaines. On va parler au féminin pluriel, parce qu'il y a quelques hommes comme Guillaume Musso ou même Baptiste Beaulieu, que les lectrices se sentent directement en connexion avec le roman qu'elles sont en train de lire, et que ça leur apporte aussi un soutien. Un refuge, alors ça c'est la tradition des romans du 19e siècle, mais aussi un soutien. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'ailleurs dans la correspondance des lectrices qui sont très attachées à leur romancière favorite. Il y a des remerciements de cet ordre-là, parce que ça apporte vraiment un soutien psychologique, un soutien affectif.
Aurélie Valogne, sur ce rôle de soutien psychologique affectif
C'est vrai qu'une fois, plusieurs fois, on m'a dit « mais vous m'avez sauvé la vie ». Ce que je trouve est une phrase beaucoup trop grande et pas possible. Et en fait, une dame a dit « si, je vous arrête tout de suite ». En fait, j'ai traversé un cancer, j'étais en chimio et vos livres m'ont accompagnée à chacune de mes séances. Et c'est ce qui me faisait du bien et c'est ce qui me faisait rire. Et quand j'ai eu fini ma chimio et que maintenant ça va mieux, les livres, je les ai laissés là-bas. Et elle m'a dit, et en fait, je sais que ça fait du bien à d'autres et que vous allez aussi, entre guillemets, contribuer, peut-être pas à leur sauver la vie, mais en tous les cas, à traverser ce moment difficile.
Alors, vous parliez du thème de l'injustice, mais on retrouve également dans vos romans le thème de l'abandon, de la transmission intergénérationnelle, de la solitude choisie ou subie, ou encore de la solidarité. Ça, c'est les grands thèmes qui irriguent la plupart de vos romans.
Oui, et c'est pas forcément fait exprès, mais c'est sûr qu'il y a des... Oui, il y a la transmission, c'est le fil rouge de tous mes romans. C'est aussi la raison pour laquelle je me lève le matin. C'est pas par hasard non plus que j'ai commencé à écrire en devenant maman. C'est qu'à un moment donné, on se dit, si moi aussi, la vie devait s'arrêter maintenant, tout de suite, pour moi, qu'est-ce que j'avais à crier au monde, qu'est-ce que j'avais à dire, qu'est-ce que j'ai découvert. Et je prends chaque roman que j'écris, là je suis en train d'écrire le 12e, comme étant la dernière chose que j'avais à partager. Mmh. Et si c'est le dernier, c'est le dernier, mais j'aurais essayé d'être, ouais, en tous les cas, peut-être une meilleure personne et de partager deux, trois émerveillements sur le monde.
Le dernier roman, il s'agit donc de Solitude choisie, qui va déboucher sur de la solidarité.
Oui, c'est vraiment quelqu'un qui s'est oublié en chemin, qui a passé... Elle a 47 ans quand elle décide de tout quitter. Marie, les enfants sont partis de la maison et elle s'est vraiment pas écoutée, abandonnée, perdue en chemin. Et l'idée, c'est de revenir à soi. Et l'idée n'est pas du tout de décevoir, de déplaire. C'est juste revenir à soi parce qu'on a tous un talent pour lequel on est fait. Et c'est tellement dommage de ne pas faire du bien aux autres en utilisant ce qu'on aime le plus et ce qui est logé près de notre cœur.
Christine Appel-Edouane.
Oui, il y a ce thème aussi du féminisme dans ce roman. Et je sais, pour en avoir parlé un peu avec Aurélie, que c'est un sujet vraiment très très important pour vous. Hein. Vraiment fondamental et un féminisme qui peut s'appliquer vraiment à toutes, sans dogmatisme, mais avec une véritable implication. Qu'on retrouve d'ailleurs dans votre implication par rapport aux femmes qui écrivent. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important.
Vous avez ouvert une maison des écrivaines ?
Oui, ben là, j'y vais dimanche.
Dans le Finistère ?
Dans le Finistère, retrouver... Alors là, c'est une session test avec 5 amis, donc la maison n'est pas officiellement ouverte, et j'avais dit qu'elle s'ouvrirait en juin.
C'est l'ancienne maison de Jane Birkin ?
Tout à fait, oui. Et effectivement, quand on tombe sur une maison comme ça, c'est plus qu'un cadeau de la vie, et on se dit juste, ok, elle est 1000 fois trop grande pour moi toute seule, mais en fait, elle va être à la juste taille pour inviter d'autres femmes à pouvoir réaliser le rêve de petite fille et tendre la main comme j'aurais peut-être aimé qu'on me l'attende à l'époque.
Guillemette Odissino.
Et moi, ce qui me frappe, c'est, je reviens à l'expression feel good, j'allais dire movie, vous voyez, ça c'est moi,
c'est
ma formation. Mais donc feel good roman, il y a vraiment un malentendu. Enfin, ça remonte vraiment à la nuit des temps avec on n'écrit pas de bonnes histoires avec des trains qui arrivent à l'heure. Et en fait, souvent, on préjuge que ce sont des livres parce qu'il y a marqué feel good dessus, que ce sont des livres où les trains arrivent à l'heure. Pas du tout. Les livres d'Aurélie, mais comme certains autres, donc feel good machin là, j'aime pas. Moi non plus, je ne suis pas très fan de cette expression. Ce sont des livres qui disent que non, les trains arrivent tout le temps en retard, que même d'ailleurs ils déraillent souvent, mais que bon, à la fin, on arrive quand même à la gare. Et donc en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que c'est prendre la difficulté et finir par en faire quelque chose, alors peut-être pas d'extrêmement positif, mais en tout cas de formateur, et justement qui mène à la solidarité, au regard sur les autres. En cela, je vois absolument pas en quoi ce soit méprisable ou en tout cas trop. C'est pas facile à écrire. Je suis absolument persuadée, en plus, surtout quand il s'agit de la comédie, exactement comme au cinéma, que c'est pas facile à écrire. Hein. C'est très difficile de faire rire et c'est très difficile d'apporter du soutien à un lecteur.
Allez, il est 10h18, l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Alors, chère Ali, autour de cette table, nous avons tous écrit un livre. Enfin, moi, à peine un demi. Et soyons francs, on le voudrait tant, ce bandeau rouge autour de la couverture. Déjà plus de 3 millions de lecteurs. Ouais, alors, pour l'obtenir, on pousserait même... Mémé, Pépé, Tonton Marcel, enfin toute la famille, dans les orties. Et vous aussi, de l'autre côté du poste, il vous est arrivé de rêver que, hop, vous allez vous mettre à l'écriture, trouver le sujet et le style qui allait vous faire caracoler en tête des ventes, parader sur les têtes de gondole et acheter une maison dans les Alpilles. Enfin, ça, c'est pour moi, parce que j'aime beaucoup les Alpilles. Bon. Alors, nous sommes ici pour le bonheur. Je me dois donc de soigner nos égos frustrés avec 3 films qui prouvent qu'être romancier... Ce n'est pas forcément la panacée. Prenez François Merlin, dans Le Magnifique de Philippe de Broca. Timide et ébouriffé, robe de chambre et charentaise molle, clope au bec, il tente d'achever son 43e roman d'espionnage en tapant comme un beau diable sur sa machine à écrire dans son appartement miteux. Seule manière de s'évader, s'identifier à son héros récurrent, l'intrépide et si sûr de lui, très très hein, sûr de lui, agent secret Bob Sinclair, ce qui donne une parodie d'espionnage rocambolesque et cocasse à souhait, et un bel éloge du fantasme, comme de pouvoir, sur le papier, balancer des rafales de mitraillettes sur son éditeur, transformé en super-vilain. Cet éditeur qui vous refuse une petite avance sur votre prochain manuscrit, mais qui sait si bien comment vous prendre.
Croyez-moi, c'est vous qui avez la meilleure part, cher Merlin. Alors que moi, qu'est-ce que je fais? Je reçois ça, des manuscrits, 20 par jour, 140 par semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette saloperie? Croyez-moi, vous avez sûrement plus de satisfaction que moi, au bout du compte. Vous faites rêver des milliers de gens. De rêves, cher Merlin. C'est vous qui le fabriquez. Parce que vous êtes un magicien.
Eh oui. Alors, au passage, vous y apprendrez aussi, grâce à un Jean-Paul Belmondo au sommet de sa forme, qu'une ceinture de peignoir peut être votre pire ennemi.
Donc, guillemets, être auteur, cela peut être le pire et le meilleur.
Oh là là, mais vous êtes un devin, Ali, vous savez ce que je vais dire. Ouais. J'allais justement enchaîner avec la comédie de James Brooks, Pour le pire et pour le meilleur, où ce divin cabotin de Jack Nicholson incarne un sale type, égoïste, grincheux, provocateur, atteint de toc, et écrivain, qui publie des romans sentimentaux au kilomètre et à succès, sans croire un seul mot de ce qu'il écrit. Un personnage du même acabit que votre acariâtre Ferdinand Brun.
Tout à fait.
Dans Mémé dans les orties, chère Aurélie. Et qui, de la même manière, va être littéralement contraint au bonheur grâce à un chien, un voisin homosexuel et une serveuse de restaurant à laquelle il finit par faire un compliment. Vous m'avez donné envie de devenir meilleur. Oh, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Vous le pensez vraiment? Alors, les écrivains pensent-ils vraiment les jolis mots qu'ils inventent? Bah, c'est un peu le sujet de notre émission. En tous les cas, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils écrivent.
Ah oui.
Ou ce qu'ils n'écrivent plus. Dans Misery, de Rob Reiner, adapté de Stephen King, alors encore un mec dont le talent me fait crever d'envie, Paul Sheldon est tout content, soulagé d'avoir enfin fait mourir l'héroïne de sa saga à succès. Et je peux vous dire qu'il va le regretter. Hein. Quant à la suite d'un accident, il est recueilli par Annie, infirmière retraitée qui vit dans un chalet isolé et idolâtre le personnage de Misery. Alors j'ai renoncé à diffuser l'extrait culte du film pour ne pas vous traumatiser avec les hurlements de douleur d'un auteur. Mais un conseil, chère Aurélie, vous qui avez tant de fans, faites gaffe si vous conduisez en montagne.
Faites vraiment gaffe, Aurélie Malone. Ce week-end, ce sera plutôt Le Magnifique avec Belmondo, Pour le pire et pour le meilleur avec Jack Nicholson, ou Misery avec Kathy Bates?
Alors, je viens de relire Misery, donc, ouais. Donc non, j'irai plutôt Pour le pire et pour le meilleur. Et puis ce week-end, je suis à Nancy, donc ça sera que pour le meilleur.
Vous serez à Nancy
au
Salon du Livre.
Allez, Rébé.
Tu vois, le bonheur, c'est comme une planète inaccessible.
Grand bien vous fasse.
Mon bouquin, c'est la fusée qui va te permettre de rejoindre cette planète.
Sur France Inter.
Confucius, vous voyez, mais en plus personnel.
Et ce matin, dans Grand Mal vous fasse, le bonheur selon la romancière Aurélie Valogne, qui vient de publier La Fugue chez Jean-Claude Lattès. Question très très difficile, c'est quoi votre conception du bonheur, Aurélie Valogne?
Oh là là, mon Dieu. Au début, j'étais très inquiète quand j'ai vu l'intitulé de l'émission. Je me suis dit, je ne suis pas philosophe et je n'ai pas une bonne définition à donner, surtout que j'ai l'impression que c'est trop grand pour moi ce mot. Je préfère le mot joie, parce que je sais à peu près où aller. Je suis mon envie du matin et je me rapproche de tout ce qui me met en joie, donc d'aller prendre la bonne tasse, de me faire un bon matcha, de regarder les oiseaux. Mais en fait, je crois que c'est Frédéric Lenoir qui disait que le bonheur, en fait, c'est de pouvoir réunir tous les jours des conditions à sa joie. Ouais. Et donc, effectivement, tous les jours, j'ai la chance de pouvoir aller chercher ma joie.
Le regard du philosophe, Thibaut de Saint-Maurice.
Je pense que déjà, de s'interroger sur cette définition du bonheur et de commencer à distinguer, comme vous l'avez fait, en distinguant la joie, ce qui peut venir à soi, etc., bah, c'est déjà, finalement, faire son propre chemin dans sa compréhension du bonheur. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de penser ou de vouloir que le bonheur obéissent à une recette et donc à une forme de définition qui serait stricte et qu'il suffirait d'appliquer, parce que il y a cette fameuse autre punchline un peu moins célèbre, mais de Kant, qui dit « le bonheur est un idéal de l'imagination ». Ce que ça veut dire, c'est que en fait, on ne peut que l'imaginer, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de... Voilà, un triangle, c'est un polygone de trois côtés dont la somme des angles est égale à 180 degrés, c'est facile, ça vaut pour tous les triangles possibles et imaginables.
Voilà. Oui, j'étais en train de me dire, ah ouais, tiens,
ben, 180,
c'est ça que j'avais pas compris en 3e B. Alors. Voilà.
Et le bonheur, précisément, il n'y a pas, c'est à imaginer plus qu'à comprendre. Et, donc,
Et nous accueillons Grégory Cohen, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef du One Place à Rungis dans le Val-de-Marne, et vous avez écrit tout à l'heure les bonheurs gourmands d'Aurélie Valogne.
On va essayer, ouais.
Aurélie Valogne, vous êtes donc née l'année de la mort de Louis de Funès, d'Hergé et de Joan Miró, d'une mère ATSEM, agent territorial spécialisé en école maternelle et d'un peintre en automobile. Vos parents divorcent quand vous avez 8 ans. Vous grandissez dans l'Essonne à Massy. Une enfance plutôt heureuse et un amour pour l'école, hein, chevillé au corps. Vous n'avez quasiment jamais raté l'école. Hein ?
Jamais.
À quoi ressemblait cette enfance heureuse dans votre HLM de Massy ? Et à quoi rêvait une petite fille hein, de 8-10 ans depuis son immeuble HLM avec vue sur la belle vue cossue de Verrières-le-Buisson dans les Hauts-de-Seine ?
Oh là là, vous en savez des choses. De quoi ? Alors déjà, ma vie était vraiment, j'avais, on va dire, trois passions. Enfin, même plus, j'en avais plein. Mais mon temps était école, bibliothèque municipale, où j'allais me nourrir de livres. Et là, c'était non négociable. Et puis, j'avais aussi une activité un peu artistique qui était de la GRS. Ça, j'en ai jamais parlé.
La gymnastique rythmique et sportive.
Et finalement, maintenant, d'IGR, parce que c'est déjà gymnastique, c'est déjà sportif.
Vous êtes mis à quoi ? Au ruban, au ballon, à quoi ?
Alors, moi, je préférais ballon et... Ouais, ballon. Parce que j'étais assez souple, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà. Bref, donc petit aparté. Mais oui, non, c'est vrai que je rêvais de plein de choses. Et c'est aussi ça qui est compliqué, c'est quand on se dit que la vie, elle vaut le coup d'être vécue. Et donc j'avais un télescope pour regarder les étoiles, sauf qu'à Massy, il n'y a que des nuages. Donc on ne voyait strictement rien. J'avais une guitare et je voulais être chanteuse et genre Cat Power ou un truc de genre ou Dolores Oria Jordan. Ouais. C'était les Cranberries à fond. Je voulais être écrivain, mais en même temps, il n'y a pas d'école pour être écrivain. Je voulais être actrice, je voulais être styliste, je voulais être décoratrice intérieure. Et puis d'un coup, on se dit, bah non, en fait, tout ça, il faut avoir du talent. Et qu'est-ce qui prouve que tu as du talent ? Toi, tu es juste scolaire, tu réussis à l'école, donc tu vas continuer ta route à l'école. Et donc, j'ai gardé cette voie du milieu de l'école pour me fermer aucune porte, pour m'assurer une sécurité du travail. Il y a une phrase de Maillard Guven où tout le monde lui demande, mais pourquoi tu n'as pas fait un baccalauréat littéraire ? Pourquoi tu n'as pas fait une prépa littéraire ? Et il a dit, mais quand on est pauvre, on choisit la sécurité, donc on ne fait pas littéraire. Et c'est vrai que moi, ça aurait été mon rêve absolu. Et en même temps, ça, c'est aussi...
Et vous avez
aussi
fait une école de commerce.
Et j'ai fait une école de commerce, parce que la sécurité financière, j'ai grandi avec ça, et gagner sa vie, c'était non négociable. Ouais. Effectivement, quand on voit ses parents qui comptent chaque centime, et chaque année, on partait en vacances. Mais ça demandait une gestion de budget que tout le monde n'a pas.
Qu'est-ce qui reste de cette enfance heureuse, de cette petite fille de 8-10 ans, qui va donc à la bibliothèque, à l'école, qui fait de la GRS, des activités artistiques. Qu'est-ce qui reste de cette petite fille aujourd'hui ?
Beaucoup de choses. C'est là où je suis contente parce que je pense que je me suis bien perdue en chemin après. Mais cette petite fille-là, je l'ai retrouvée en écrivant. Notamment, j'avais dit à ma grand-mère à 6 ans, ça y est, mémé, j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain. Et puis en fait, cette phrase, elle ne m'est revenue qu'à 29 ans. Donc entre-temps, j'ai eu le temps de travailler dans des entreprises qui n'étaient absolument pas faites pour moi.
Procter & Gamble ?
Notamment, même IBM.
Alors que vous êtes une technophobe.
Exactement, mais c'est la pire chose que... Enfin bref, je les embrasse. Parce que, bon, ils m'ont payé mon apprentissage et c'était quand même ce qui était le plus important pour moi à l'époque, pouvoir finir mon diplôme. Donc ce qui reste de cette petite fille, c'est toujours beaucoup de passion, beaucoup de curiosité et cette petite phrase qui est « Pourquoi pas moi ?» Moi, j'ai envie de tout tenter, donc je me ferme pas.
Pourquoi pas moi ? Parce que vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui une transfuge de classe. Vous aviez participé au beau livre d'Adrien Nazelli et tes parents, ils font quoi ? Consacré à celles et ceux qui sont issus d'un milieu modeste et qui se sont élevés socialement. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre place, mais vous dites que ce fut dur de la trouver, cette place.
Bah c'est... Oui, notamment, oui. Parce qu'on se perd en chemin, parce qu'en fait, on suit notre joie du jour. Moi, j'ai toujours aimé comprendre, participer, essayer d'améliorer les choses, débloquer, défaire des nœuds. Donc même en entreprise, j'arrivais à trouver une utilité. Mais au final, je me suis perdue sur ce qui me rendait moi heureuse, à savoir la création, à savoir ma solitude, à savoir être indépendante, à savoir être libre. Et je ne l'étais pas du tout. Et aujourd'hui, en étant écrivaine, là, je me suis enfin créée ma place. Pas seulement trouvée, mais là, je réinvente mon métier d'écriture tous les ans. Je ne fais jamais la même chose de la même manière. Et c'est une chance c'est un privilège fou. Mais c'est vrai que mon père me dit souvent, toi, t'es né sous une bonne étoile. T'as de la chance. Et oui, mais je sais aussi que ça demande beaucoup de travail et de pas trop avoir d'ego, de pas avoir peur aussi du regard des autres et de se remettre en question à chaque fois en disant, mais en fait, j'ai rien à prouver aux autres. Mais par contre, je veux me prouver à moi pour être fière de moi et de me dire, je suis allée au bout. Et donc là, je vais essayer d'aller au bout du 12e.
Écoutons Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2021 sur France Culture.
On est des millions, des milliards sans doute, à avoir eu des écus ce passage d'un monde à un autre. D'avoir eu des parents qui n'étaient pas du tout acculturés de la culture dominante, veux-je dire, et de se trouver changer en fait de classe, ou changer de classe sociale. Et c'est ça que j'ai dit avec sans romanesque, de façon rigoureusement factuelle, d'une certaine manière, et une écriture qui soit une écriture de la réalité. Donc de gommer tout ce qui pouvait être jugement aussi. Simplement, peut-être, ai-je fourni un miroir.
Annie Ernaux, dans l'émission La Grande Table en 2021 sur France Culture.
Je suis très émue. Hein. Je l'adore. Et je l'ai découvert tellement tard. Je pense que j'avais 32 ans, déjà mariée, déjà un enfant. Justement, moi, j'ai commencé par La Femme gelée. Et je me suis dit, ouais, elle raconte ma vie. Enfin, il y a un vrai truc. Ça a été une claque énorme. Je lui ai écrit une lettre. Elle m'a gentiment répondu. Et ça a été une correspondance courte, mais très très intense, et je suis 100% d'accord avec elle. Déjà, on est des milliards, et mon parcours à moi n'a rien d'extraordinaire. Souvent on dit on s'élève socialement, moi je me suis élevée de rien du tout, c'est juste que je me lâche. Le privilège que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir pu choisir ma place, et de me dire écrivaine, je veux pas que je dise à mon éditrice, mais je pourrais le faire gratuitement, enfin c'est... non, je lui dis pas, elle ne m'écoute pas de toute façon, mais j'embrasse Véronique. Et donc finalement, non, c'est vraiment, c'est, voilà, juste être à sa place, pas demander plus, pas demander trop, et d'avoir le choix d'être qui on est.
Vous dites dans le portrait que Libération vous a récemment consacré, je sais que je n'aurai jamais la validation du milieu. Ça provoque quoi comme sentiment? Du dépit, de l'amertume, de la colère, de l'indifférence? Pas de validation du milieu, mais tout de même, dans Le Masque et la Plume récemment, Patricia Martin a loué votre dernier livre, La Fugue, dans Le Masque de Rebecca Manzoni.
C'est sûr que quand on a la chance d'être écrivaine parce que les lecteurs nous ont choisis par l'auto-édition d'abord et ensuite en livre de poche notamment, et qu'on est lu par des millions et des millions de gens, enfin c'est juste fou de savoir qu'il y a comme Astérix, un peuple d'irréductibles gaulois qui résistent et qui ne m'ont jamais lu. Il y a un moment donné, comme par hasard, on veut tout, on veut le beurre et l'argent du beurre, et puis en fait on se rend compte qu'on court après des mauvaises choses. Moi en fait j'étais en Italie et donc j'étais très protégée, et quand au bout de 5 ans d'écriture, je suis venue habiter en France. Là, j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai compris ce que c'est que de mettre un livre avec une couverture Vichy où c'est écrit « Mémé dans les orties » à côté des Gallimard et autres. Et là, j'ai compris et je me suis dit oh, « pardon ». Enfin, vraiment, intérieurement, j'ai compris. Et je me suis dit « maintenant, il faut que je rattrape, il faut que je sois au niveau. Je vais lire tous les classiques. Je vais essayer de comprendre qui est qui. » Et puis un jour, je me suis rendu compte que ça y est, j'avais fait ma part du travail et que j'avais plus besoin de ça. Et qu'en fait, je n'avais même plus besoin soit qu'on me lise, soit qu'on me valide, parce que je m'étais auto-validée.
Vous ressentez tout de même une forme de bonheur à avoir échappé à un déterminisme social?
Une forme de bonheur.
Tout en ne reniant pas le milieu d'où vous venez.
Oui, du tout, du tout. Pour moi, je ne sais même pas si c'est juste le bonheur, mais c'est d'abord la liberté. C'est une chance folle que de pouvoir s'écouter, de pouvoir être soi. Et tout le monde n'a pas cette chance-là. Il y en a qui naissent dans une famille où, par définition, on leur demande de reprendre l'entreprise familiale, et c'est lourd à porter. Il y en a qui ont un nom, pareil, avec des parents illustres, c'est lourd à porter. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais, et aujourd'hui je suis à la place que j'ai décidée, et si demain je veux changer, je changerai, mais c'est sûr que c'est ce qui me rend heureuse et joyeuse.
Christine Lapelle-Edouard.
Oui, le mépris dont vous parliez à l'instant, il y en a encore des traces, ô combien, et c'est un mépris littéraire qui vient redoubler en fait le mépris de classe auquel vous avez été confrontée enfant, et Et c'est incompréhensible. Enfin, c'est vraiment, c'est aussi très méprisant pour les, pour vos lectrices, pour vos lecteurs, pour les gens qui vous lisent. Or, ces romans qu'on dit faciles entre guillemets, c'est aussi une entrée pour vos lectrices. Et parmi vos lectrices, il y en a sans doute certaines qui n'avaient pas lu ou qui ne lisaient pas et qui sont entrées dans la lecture. Alors, on entend partout, il faut absolument remettre les enfants à la lecture, etc. Mais par ce biais-là, vous occupez vraiment, moi je peux le dire, une fonction sociale, hein, carrément une fonction sociale.
C'est ma plus grande fierté, hein. C'est quand on me dit, moi je lisais pas, j'ai 50 ans, j'ai jamais dépassé la page 10 d'un livre, et là j'ai lu tous vos livres, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai déjà lisé d'autres livres, et même quand je poste, là récemment sur les réseaux sociaux, j'ai posté La Fugue avec tous les livres que je cite dedans. Donc on a Anne Dufour-Montel, dont vous avez parlé il n'y a pas longtemps, on a Goliarda Sapienza, on va avoir Simone Veil, enfin... Tous les livres qui, moi, m'ont touchée et qui ont été utiles dans mon parcours, notamment de femme, et qui a plein de commentaires de gens qui disent « mais j'ai adoré », d'un coup, je me dis « voilà, ça va prouver à tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de cerveau », qu'en fait, ils sont curieux, qu'ils ont des émotions et qu'il ne faut pas juger.
Et puis, Christine Lapellé-Douelle, vous avez lu La Fugue, on peut louer la grande fluidité, la grande clarté de l'écriture de La Fugue.
Oui, absolument, et c'est vraiment... et c'est pas du tout méprisant, du tout, au contraire dans ma bouche, c'est vraiment non seulement c'est fluide, mais c'est, je pense, une écriture qui est abordable absolument par tout le monde. Qu'on soit un grand lecteur, un moyen lecteur, un petit lecteur ou pas un lecteur du tout, tout le monde peut se plonger dans ce dernier livre et dans les précédents aussi. Et franchement, allez-y, quoi. Il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, cette ouverture, c'est, je pense que c'est un enrichissement aussi pour chacun. Hein.
Grande fluidité et pas de clichés.
Non. Je sais que vous faites. Je sais que que vous faites la chasse aux clichés. Et ça, c'est vraiment à remarquer parce que c'est vrai que c'est un des reproches qui a été fait. Et c'est vrai aussi qu'il y a dans cette catégorie des feel good avec des tas de guillemets. Des livres de moins de qualité, mais c'est vrai pour tout type de littérature.
Guillemette Audicino.
Moi, je me posais la question, vous parliez d'être à votre place. Ce transfuge, évidemment qu'il est d'autant plus éclatant et bienfaisant que du fait que vous ayez eu du succès. Est-ce que le succès, quand même, ça vous a porté Est-ce que ça fait redoubler votre ambition de rester à votre place? Si vous n'aviez pas eu de succès, qu'est-ce qui se passait par rapport à cette notion de transfuge et de ce désir d'une autre place? Est-ce que vous seriez retourné chez IBM?
Alors, non mais en vrai de vrai, moi j'ai écrit Mémé dans les orties, et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne à plein de monde, il ne faut pas écrire pour être édité ou changer de vie. Il faut écrire parce qu'on a envie d'écrire, et moi le roman, il devait rester dans mon tiroir. Je n'avais pas prévu de le partager au monde, mais je voulais pouvoir le sortir comme un totem d'immunité en disant « Ah non mais moi j'ai réalisé mon rêve de petite fille, hein. Il est là, regarde, tu veux le lire, il est disponible. » Puis au fur et à mesure, on tombe amoureux de son histoire et on se dit « Allez, on le donne à lire à des étrangers », et donc je me suis auto-éditée. Mais donc après, j'ai repris un travail. Donc pendant les 4 premiers romans que j'ai écrits, j'avais un travail à côté. Et c'est en revenant en France où là, je me suis dit, bon, apparemment, je vais essayer de faire que ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me dire écrivaine, mais c'était pas dès le début. Et par contre, aujourd'hui, effectivement, le fait d'être tellement attendue, lue, il y a une très très grande fidélité chez les lecteurs et les lectrices, pour moi, ça m'offre la liberté. Une liberté énorme de pouvoir continuer, de savoir pour qui j'écris. Alors, égoïstement, j'écris aussi pour moi le matin, je raconte les histoires que moi j'ai envie de raconter. Mais il y a quand même quelque chose qui me porte, de savoir que je suis attendue, de savoir que ce que je fais n'est pas vain. Et il y a tellement d'artistes qui n'ont pas connu le succès de leur vivant. Moi, je sers à ça. Je sers à faire en sorte que ce monde vraiment compliqué et anxiogène, à un moment donné, je sais pas si c'est dans la valise des vacances ou autre, je suis là, et ça va faire un petit peu de bien, j'espère. Voilà, donc je sais que ça me donne une liberté.
Plusieurs facteurs vous ont poussé à écrire, l'expatriation à Milan, un burn-out, le baby blues après la naissance de votre premier fils, la maladie grave d'une cousine de votre âge, et là vous vous dites, l'écriture c'est maintenant ou jamais, ne remets pas ton désir d'écrire au lendemain, et pendant cette période vous faites un cauchemar. Hein. Vous voyez votre tombe avec cette inscription, Aurélie Valogne, écrivain.
Oui, non, ça c'est fou. Enfin, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans la vie, c'est qu'au final, l'appel le plus intime qu'on a, même quand on est jeune, hein, quand on a 12 ans, 17 ans, et qu'on sent qu'il y a un truc qui est fait pour nous, Et c'est celui dont on va parler à personne. C'est celui où on n'y va pas, en fait. Et moi, c'était ça. Moi, je voulais... j'ai essayé de faire le CELSA parce que c'était la seule école publique d'écriture et j'ai pas été prise. Et ben, on se retrouve en école de commerce et c'est pas grave, la vie fait que. Mais en fait, ça nous retombe dessus. Et donc, l'inconscient revient frapper en disant « Faites-toi ton talent, toi ton truc, même si, je sais pas si c'est vraiment un talent, c'est l'écriture. Donc, vas-y !» Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire que le premier essai était le bon.
Alors, La Fugue, c'est l'histoire d'Inès, mère de famille qui vit une crise du milieu de vie. Elle est accablée par sa charge mentale. Elle plaque tout, elle prend un risque. Elle fait sienne cette phrase d'Anne Dufourmentel dans Éloge du risque. « À toi, risque ta vie. » Elle emporte avec elle l'essentiel. Je vous cite, des draps, un sac à dos de vêtements avec une trousse de toilette minimaliste, quelques livres et un tableau. C'est étonnant ça d'emporter un tableau dans son sac à dos. Aller vite pour ne pas être rattrapé, pour ne pas changer d'avis. Et vous, vous avez eu la tentation de la fugue, comme Inès, de la fuite.
Oui, oui, oui.
Et comme beaucoup de femmes, j'imagine, accablées par la charge mentale, les femmes autour de la table acquiescent.
Oui.
Mais en fait, même toute petite.
Réalisée ou pas réalisée, mais oui, bien sûr.
Même petite, moi, je pense, à 8 ans, j'ai fait mon sac à dos en pleine nuit pour fuir la maison et aller chez ma grand-mère en vélo. Et en fait, je me suis recouchée par flemme parce que 3 heures de route pour aller en Bourgogne sans phare, sans rien à manger, enfin, c'était pas réaliste. Donc j'avais déjà cet appel-là. J'ai demandé à ma mère à 16 ans, mon émancipation, elle a refusé. Donc vraiment, dès que je me sens étouffée, j'ai envie de fuir. Et c'est vrai que bah, au final, parfois, on ne se rend pas compte, mais il y a des choses qu'on s'assigne à soi-même. Et l'assignement à résidence quand on est une maman et quand on est une épouse, mon mari m'a jamais rien interdit. Mais la société fait que une bonne mère, elle est à la maison le soir. Et un jour, quand on a une bonne discussion, lui et moi, il me dit « mais je t'ai jamais dit non ». Et je, bah oui, merde, effectivement, on se le met toute seule. Et donc, en fait, d'un seul coup, de déployer ses ailes et de se dire ce dont j'ai besoin, moi, c'est plus de silence, plus de solitude, plus de moments pour me nourrir, l'osium, d'art et compagnie, et ben, je vais aller le trouver toute seule ou avec des amis.
Votre personnage, Inès, va retaper une maison, une manière de se retaper corps et âme, l'action, les mains dans le cambouis, faire des choses de ses mains pour aller mieux. Je cite votre personnage, « Je passe mes journées à prendre soin du jardin, arroser, biner, tailler, désherber, tondre, je retrouve le goût de l'effort et celui de la fatigue physique, celui qui fait du bien. »
Oui, bah ça, je suis vraiment nulle en jardinage. J'étais trop fière de moi, j'avais déblayé tout un passage vers une petite porte secrète. Bon, effectivement, la nature a repris ses droits en quelques mois, il faut tout refaire tout le temps. Mais c'est justement ça que j'ai envie d'apprendre aussi avec le jardin, c'est la patience. C'est le travail qui, finalement, entre guillemets, ne servirait à rien, parce que la nature, elle fera toujours ce qu'elle veut. Donc oui, lâcher prise et ralentir et arrêter de vouloir faire à tout prix.
Parce que dans son ancienne vie, le temps d'Inès est chronométré, tout allait trop vite, elle est tout le temps pressée, en retard surtout. Et c'est vrai que retrouver la maîtrise de son temps, ne plus être pressé, pressurisé par ce temps, c'est l'un des chemins du bonheur. Et on sait que l'un des plus grands stresseurs qui existent dans la vie, c'est la pression du temps.
Oui, ben moi c'est vraiment un des mots qui est clé pour moi, c'est ralentir. Moi je fuis tout ce qui impose d'accélérer, j'ai un ordinateur qui a plus de 12 ans qui n'a pas internet, c'est juste une machine à traitement de texte. Donc je gère une vie avec un téléphone qui, pareil, date de 2020. Donc je ne peux installer aucune application, il n'y a plus d'espace. Je me savonne la planche, mais je refuse d'entrer dans un monde qui va trop vite, je refuse l'actualité chaude. Moi ce qui m'intéresse c'est les changements de société et l'humain.
Tiens, quelles sont les autrices, les auteurs qui vous ont construites tout au long de votre vie ?
Oh là là,
les piliers fondamentaux. Alors, vous citiez tout à l'heure Annie Ernaux.
Un des premiers livres qui a marqué ma vie, c'était Les 4 filles Dr. March. Donc celui-là, clairement, le personnage de Joe m'a dit que c'était possible de pouvoir ne pas suivre le trajet que sa mère a suivi et de pouvoir être reporter, journaliste, écrivain, quelque chose où on va vers sa créativité. Donc ça a été pour moi fondamental. Après, j'ai beaucoup lu, mais c'est un peu flou. Ouais. C'est comme s'il n'y a pas eu de piliers, de socle. Pourtant, c'était plutôt des livres américains, des choses géniales. Et puis en fait, j'ai d'abord écrit, donc à 29 ans. Et là, d'un coup, tout s'est ouvert. Et donc Annie Ernaux, et donc Camus, et donc Saint-Exupéry, et donc Romain Gary. Voilà, donc des vraies belles rencontres.
Alors, dans votre vie quotidienne, vous célébrez les micro-plaisirs, les bonheurs minuscules du côté de Dinard, en Bretagne. Grégory Cohen, vous allez évoquer des bonheurs gourmands qui pourront peut-être parler à Aurélie Valogne.
Ouais, je vais essayer, en fait, Aurélie, dans vos romans, vous nous rappelez que le bonheur ou la joie se cache, en fait, dans les détails, dans ces petits riens qui, mis bout à bout, tissent une vie heureuse, dans ces choix essentiels qui nous permettent d'être libres Vous avez cette façon d'écrire la famille, la transmission, les grands-mères, qui devient une véritable ode au quotidien. Et souvent même, si c'est pas frontal, moi je trouve que la cuisine est là. Elle est là, en toile de fond, en lieu de partage, de réconfort, de mémoire. Dans Au petit bonheur la chance, cette grand-mère qui transforme de simples œufs en crêpes nous offre une leçon de vie. Avec peu, on peut donner beaucoup. Avec presque rien ou du simple, on peut faire du bon. Dans Mémé dans les orties, ce sont des gestes d'attention, parfois autour d'un repas, qui viennent rompre la solitude et redonner goût à la vie. Parenthèse, j'adore Ferdinand. Je pense qu'on est tous Ferdinand en puissance.
Mais moi aussi, c'est mon alter ego. Et mon grand-père est toujours vivant et c'est lui l'inspiration.
C'est lui.
Ah oui, il a 98 ans.
C'est ce que je me posais comme question. Il y avait la grand-mère maintenant.
98 ans.
On le salue peut-être.
Voilà, il vient de rentrer en EHPAD il y a 2 jours. Voilà, et il est très heureux.
Bah, canon. Et puis, dans Minute Papillon, le repas de famille. Qui devient ce miroir de nos liens, parfois tendu, souvent drôle, mais toujours essentiel. Voilà, tout ça nous renvoie bien sûr à cette fameuse Madeleine de Proust. Un goût, une odeur, et tout un monde ressurgit. Chez vous, le bonheur gourmand, c'est pas la démesure gastronomique. C'est la crêpe du dimanche, c'est le matcha, c'est le gâteau qui sort du four. Ce sont ces instants présents, à mon sens, qui font écho au passé et s'inscrivent dans un futur partagé. Ces gestes simples qui, au fond, apportent une sérénité immense et font écho à ce que nous recherchons tous, des moments d'ancrage émotionnel. Alors Aurélie, une petite question. Si vous deviez choisir votre propre Madeleine de Proust culinaire, ce coup-ci, ce petit bonheur gourmand qui vous ramène à l'enfance, à la famille, à vos personnages aussi, ça serait quoi ?
Oh, je suis très émue. Merci pour cette chronique. On l'avait vraiment jamais tissée... C'est pas possible.
Merci. Bah, du coup, moi aussi.
Mais ouais, c'était beau.
Mais du coup, moi aussi, tiens.
C'était beau parce que là, on parle des crêpes et je sais que c'est un souvenir d'enfance de mon père avec sa grand-mère qui l'a élevé. Donc, Au petit bonheur, la chance, c'était une vraie histoire tirée de l'enfance de mon père qui a été abandonné par sa mère et élevé à Granville par cette mémé de l'époque qui lui faisait, voilà, je sais pas, un phare au pruneau, une crêpe. Enfin, bref, donc ça, c'est très touchant. Avec deux œufs, on fait de l'amour, en fait. Et c'est ça qui est beau. Moi, mes souvenirs d'enfance, donc dans Mémé dans les orties, avec mon grand-père, il a dû venir me chercher à l'école 2 fois à la place de la cantine, mais j'en ai fait un truc génial et ma grand-mère dirait franchement merci. Et bref, mais il me faisait donc les coquillettes au poulet avec le jus des... Et moi, voilà. C'est ma Madeleine, c'est fou. Ouais. Et ma mère qui nous faisait aussi toujours la tarte au citron. Et donc ça, c'est le gâteau maintenant que mes enfants réclament. Et je fais très très mal, mon mari le fait mieux que moi et ma mère continue de le faire. Donc voilà, c'est un peu mes deux curseurs de souvenirs et de Madeleine de Proust.
Merci Grégory Cohen, chef du One Place à Rungis. Alors Élie Vallone, on termine avec le questionnaire de Bernard Pivot parce qu'on n'a pas fait mieux et je vous le soumets. Aurélie Vallone, votre mot préféré ?
Liberté.
Le mot que vous détestez ?
Foot.
Votre drogue favorite ?
La lecture.
Le son, le bruit que vous aimez ?
Ah, le chant des oiseaux.
Le son, le bruit que vous détestez ?
Tous les petits bruits électroniques, mécaniques. Enfin, j'ai une hyperacousie, j'entends tout, c'est insupportable.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
Imbécile heureux.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Allez, je dirais Virginia Woolf, pour chaque billet qu'on aurait dans la main, se dire qu'il y en a un pour nous.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ?
Oh, tout ce qui a trait aux ordinateurs, je pense, ou alors à l'actualité trop chaude.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
Alors moi, je pense être une tortue de mer ou un aigle, donc un des deux.
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?
Alors, j'attends pas grand-chose, mais je crois que j'aimerais bien qu'ils me disent « same player, play again » et j'y retourne avec grand plaisir.
Joue encore. Ouais. Dernière question, dans une semaine, une énorme météorite s'abat sur notre planète, destruction totale, je suis vraiment désolé de plomber l'ambiance. Que faites-vous pendant cette semaine en attendant l'apocalypse ?
Exactement la même chose. Je promène ma chienne, je reste en famille, je suis au bord de la mer, j'écoute les oiseaux et je lis des livres.
Bah, La Fugue, par exemple, qu'on peut lire, publié chez Jean-Claude Lattès, que vous avez beaucoup aimé, oui. Christina Pelédouelle.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre et que je recommande vraiment à tous vos fans et les
et
autres.
Les autres et les autres, et surtout. Les autres.
France Inter.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Si. Grand bien vous fasse.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, ce matin dans vos punchlines de la philo, vous nous faites plonger au cœur du mystère de l'amitié avec cette phrase de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Oui Ali, lorsque Montaigne dans ses essais tente d'expliquer la très forte amitié qui le liait à son poteau Étienne de la Boétie, il a donc cette formule passée à la postérité, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et ainsi, tout semble dit. pourquoi nouons-nous des amitiés? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Pourquoi elle plutôt qu'une autre? Eh bien parce que lui ou elle est parce que moi, point final. Apparemment, donc, cette formule de Montaigne signifie que même si l'on peut trouver quelques raisons à nos amitiés, au fond, elles seraient inexplicables. Même si l'on peut faire le décompte de nos points communs, même si nos amis nous font rire, ne nous jugent pas, nous font du bien, nous écoutent, nous apprennent des choses, même s'ils nous sont utiles parce qu'ils nous rendent service et puis que l'on peut toujours compter sur eux, toutes ces explications ne suffisent pas. Et vous aurez beau aller encore plus dans le détail de chacune de ces raisons, cela n'expliquera toujours pas l'amitié. Parce que des gens qui ont des points communs et des goûts communs avec nous, des gens qui peuvent nous faire rire, nous rendre service, nous écouter, nous apprendre des choses, il y en a des dizaines, des centaines à chaque fois. Et d'ailleurs, la vie se charge régulièrement de nous faire découvrir de nouveaux amis au gré de nos rencontres. Alors s'il y a tant d'amis possibles, pourquoi celui-ci ou celui-là? Et c'est apparemment cette spécialisation de notre affection qui est inexplicable.
Et de fait, Thibault, nos amitiés ne sont pas exclusives, mais elles ne sont pas pour autant substituables.
Waouh, vous dites ça bien, Ali.
Il a eu du mal à le prononcer, hein, quand même.
Oh. Non, j'articule, madame.
Ouais, vraiment hyper clair, hyper clair. Vous avez tout à fait raison, et c'est encore là le mystère. On n'est pas exclusif avec nos amis. On peut en avoir plusieurs sans qu'ils aient l'impression pour cela que l'on est moins leur ami. Mais nos amis entre eux ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas substituables. L'amitié que l'on éprouve est à chaque fois unique. Alors c'est peut-être ça la clé du fameux « parce que c'était lui, parce que c'était moi » de Montaigne. On croit que ça veut dire que l'amitié est inexplicable, alors qu'en fait Montaigne donne finalement la seule explication qui vaille. Parce qu'au fond, la seule chose à expliquer dans nos amitiés, ce n'est pas les bénéfices que nous en tirons, ils nous font rire, ils nous rendent service, mais pourquoi lui ou elle plutôt qu'un autre. C'est ça, c'est cette spécialisation-là qui est mystérieuse. Et là où la réponse de Montaigne est finalement la meilleure qui soit, c'est qu'il répond en convoquant la singularité de chacun. Parce que c'est lui, parce que c'est moi. C'est le lui et le moi qui importent. L'explication de nos amitiés ne réside donc pas dans des raisons extérieures ou des bénéfices de relations, mais dans l'unicité de chacun. Et on rappelle au passage que les essais s'est écrit en pleine période humaniste, au moment où l'individualisme et la conscience personnelle s'affirment dans la pensée occidentale. Et Montaigne reconnaît donc en chacun de nous des sujets uniques, suffisamment uniques, distincts, singuliers et pas pareils que les autres, pour être la raison dernière de nos amitiés. Et c'est au fond pour ça que nos amis comptent autant pour nous. La reconnaissance qu'ils nous apportent à travers leur amitié est la reconnaissance qu'il y a de l'unique en nous, en chacun de nous. Et ne pas avoir d'amis, à l'inverse, ou avoir du mal à nouer ou à conserver des amitiés, outre la solitude que ça provoque, bah ça jette un petit doute sur ce que nous sommes et sur qui nous sommes. Nous redoutons alors de ne pas être suffisamment intéressant, c'est-à-dire suffisamment unique pour que l'on reconnaisse cette unicité. Voilà, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes et personne d'autre que nos amis sont nos amis. Les points communs que nous avons ne nous réunissent que parce qu'ils créent du commun, mais à partir de deux différences irréductibles. Parce que c'est vous, Ali, parce que c'est moi.
Oh, ça fait au moins une quinzaine d'années d'amitié, mon cher Thibault. Hein,
voilà.
Les punchlines de la philo de Thibault de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas leur philo avec notre amie Patricia Martin ce soir à 20h. Merci aux amis du vendredi, Grégory, Thibault et Guillemette. Merci Aurélie Valogne d'être venue.
Merci Ali,
ce
matin, plaisir.
La fugue est publiée chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup, Christina Pédédouel. Votre fête du livre à Fontainebleau aura lieu le samedi 27 septembre.
Ça approche.
Merci beaucoup à Nathalie Romero qui m'a aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Noé Bradban. Merci à Maria Pasquet à la réalisation. Merci à Valentine Chedebois à la programmation musicale. À la technique ce matin, Frédéric Kiefer et Mélanie Etroit.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.